9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Dimanche 13 juillet 1930, nous sommes à Montevideo, donc en Uruguay. Montevideo a été fondé par les Espagnols environ deux siècles plus tôt. Et la ville, depuis 1828, est la capitale de ce petit état du sud-ouest de l'Amérique latine, bordé par l'océan Atlantique, avec pour voisins le Brésil et l'Argentine. À cette période de l'année, on est dans l'hémisphère sud, on est en juillet, donc c'est la saison hivernale. Il tombe d'ailleurs quelques flocons de neige sur Montevideo. En début d'après-midi, dans deux des stades de la ville, l'Estadio Pocitos et l'Estadio Gran Parque Central, l'ambiance est festive, même si les spectateurs sont un peu frigorifiés, il faut bien le dire. C'est dans ces stades que vont commencer dans quelques minutes les deux matchs d'ouverture des 18 rencontres de la première édition de cet événement qui jusqu'alors n'avait jamais eu lieu. Et pour cause, c'est une création, c'est la Coupe du Monde de football. Alors au Grand Parc Central, si je puis dire, qui peut accueillir 20 000 spectateurs, les États-Unis reçoivent la Belgique et pendant ce temps, donc à quelques kilomètres de là, au Pocitos, une petite enceinte qui elle ne fait que 5 000 places. Deux équipes sortent du tunnel sous les acclamations de plus de 4 000 spectateurs, l'équipe du Mexique et l'équipe de France. Devant les photographes et les officiels, les joueurs français sourient. Ils ont quand même l'air un peu crispés, comme leur capitaine d'ailleurs, Alexandre Villaplane, qui se dirige vers le rond central et qui échange un bouquet de fleurs avec le capitaine mexicain. Et puis, les Français retirent leur pull blanc, frappé d'un coq. Ils étaient quand même en pull tellement il fait froid, hein, voyez un peu l'ambiance. Les voilà qui se placent sur le terrain et à 15h précises, l'arbitre donne le coup d'envoi. L'arbitre, c'est un Uruguayen, je dis ça pour ceux qui seraient vraiment très passionnés de ce genre de curiosité sportive. Il s'appelait Domingo Lombardi. La Coupe du Monde vient de commencer et nul doute que ce jour-là, le plus heureux dans le public, celui qui arbore le sourire le plus épanoui, c'est un homme de 56 ans. Vous allez voir pourquoi je parle de lui. Il s'appelle Jules Rimet.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Jules Rimet est le président de la Fédération Française de Football. Avant, il a créé un club parisien, le club de Saint-Ouen, le Red Star. Célèbrissime Red Star. Donc Jules Rimet s'est fixé pour objectif de faire du football un sport professionnel et depuis 1921, il est à la tête de la FIFA, ce qu'on appelle la FIFA, la Fédération Internationale de Football Association. Alors, évidemment, il y a que quelques pays membres au début, mais lui a l'intention de rassembler toute la famille du football à l'échelle planétaire autour d'une compétition professionnelle qui pourrait réunir plusieurs nations, toutes celles qu'ils veulent en fait, et il n'y aurait pas de phase éliminatoire. C'est ça qu'il faut comprendre. Lorsqu'on parle de la création de cette Coupe du Monde, c'est que ce ne sont pas seulement les équipes qualifiées là à l'époque, c'est toute équipe nationale qui veut disputer la rencontre peut se présenter. Rimet s'est inspiré des tournois de football disputés dans le cadre des deux Jeux Olympiques de 1924 et 1928. Et il faut dire que les rencontres olympiques de football dans les années 20 ont rencontré un grand succès. En mai 28, le projet que porte Jules Rimet depuis maintenant pas mal d'années est adopté. Et voilà que 6 pays, 5 Européens et un Sud-Américain, donc l'Uruguay, se portent candidats. Il y a eu pas mal de désistements successifs des pays du vieux continent. Et donc, finalement, c'est l'Uruguay qui est désigné en mai 1929 pour organiser cette première Coupe du Monde. Le fait qu'en 1930, le pays célébrera le centenaire de son indépendance, qu'il s'engage à régler tous les frais de transport et d'hôtel, des sélections participantes, etc., ça a fait beaucoup d'arguments qui ont pesé en faveur de l'Uruguay, évidemment. Et puis, faut dire que l'Uruguay, c'est un pays de football, double champion olympique en titre, s'il vous plaît, 24 et 28, et évidemment que ça a pesé aussi en faveur de sa désignation. Il y a un journaliste qui a assisté à la victoire de l'Uruguay au tournoi olympique de 24, à Paris donc, hein. Le journaliste en question, vous le connaissez, c'est un grand écrivain, c'est Henri de Monterland. Voilà ce qu'il dit, Monterland. Nous avons ici le vrai football. En comparaison avec celui-ci, celui que nous connaissions avant, celui que nous jouions, n'était rien d'autre qu'un jeu de cour d'école. Mais jusqu'au coup d'envoi, qui donc est prévu le 13 juillet 1930, la tenue de la Coupe du Monde a posé question. On n'était pas certain que ça se ferait. D'abord, il y a eu ce krach boursier en octobre 29 qui a dissuadé beaucoup de nations de participer à une compétition qui quand même était coûteuse, ne serait-ce que par le voyage en bateau pour rejoindre l'Uruguay. Vous imaginez, pour traverser depuis l'Europe, c'est 2 semaines de navire à l'époque. Et pour cette raison, 2 mois avant le dépôt officiel de la liste des participants, il n'y a aucun pays européen qui ne s'était encore inscrit. Il a fallu que Jules Rimet, en personne, aille convaincre un certain nombre de sélections de participer à ce qu'il avait lui-même créé. Finalement, 13 pays vont participer, ça fait pas beaucoup, hein. 13 pays participent à cette première Coupe du Monde, 9 qui viennent du continent américain, États-Unis, Mexique, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Paraguay, Pérou, et puis bien sûr le pays hôte, l'Uruguay, et uniquement 4 pays européens. Alors ça pourrait faire l'objet d'une belle question, hein. Quels pays européens ont participé à la première Coupe du Monde de football? La France et la Belgique, ça je pense que beaucoup de gens le savent, mais aussi la Roumanie et la Yougoslavie. L'équipe roumaine d'ailleurs est partie d'Italie sur le Conte Verde, paquebot le Conte Verde, et elle a été rejointe à Villefranche-sur-Mer le 21 juin 1930 par Jules Rimet, sa fille, et l'équipe de France, 16 joueurs si vous comptez les remplaçants, un entraîneur, Raoul Caudron, et puis tout le staff, les soigneurs, les masseurs, etc. 5 représentants du Racing Club de Paris en font l'équipe la mieux représentée au sein de la sélection française. Moyenne d'âge 23 ans, pas beaucoup d'expérience internationale. Certains des joueurs, pour tout vous dire, ne sont même pas des professionnels, hein. Ils exercent un emploi dans la vie civile, si je puis dire. Alors le lendemain, 22 juin, à Barcelone, la sélection belge, à son tour, est montée à bord du Conte Verde, et après plusieurs escales et l'embarquement de l'équipe brésilienne, le paquebot est arrivé à Montevideo le 4 juillet, c'est-à-dire 9 jours seulement avant le début du tournoi. Il y avait beaucoup de monde sur le quai pour accueillir tous ces joueurs qui arrivaient en grande partie d'Europe et pour certains du Brésil, 10 000 Uruguayens. Les Yougoslaves, de leur côté, ont fait le voyage à bord d'un bateau à vapeur un peu plus long, et ils arrivent quelques jours après, au moment du tirage au sort des 4 poules en lice, une avec 4 équipes et les autres avec 3. La France va jouer contre l'Argentine, le Mexique, le Chili. Dans le groupe 2, vous avez Brésil, Yougoslavie, Bolivie. Le groupe 3, Uruguay, Roumanie, Pérou. Et puis enfin, États-Unis, Belgique et Paraguay. Bref, tout a l'air prêt. Enfin, ou presque, parce que quand même, à 5 jours du début de la Coupe du Monde, le stade Centenario, qui avait été construit spécialement pour le tournoi, qui pouvait accueillir jusqu'à 90 000 spectateurs, le stade a été déclaré impraticable en raison des pluies qui ont retardé la fin des travaux. Bref, l'Uruguay va donc, qui devait inaugurer ce grand stade en match d'ouverture, bien sûr, l'Uruguay va devoir attendre quelques jours, et les rencontres États-Unis, Belgique et France-Mexique vont pouvoir ouvrir le bal dans les autres stades le 13 juillet 1930. Ce n'est pas un compositeur uruguayen que nous a trouvé Jérémy Bigori, mais un compositeur mexicain, José Pablo Moncayo, qui nous donnait ce huapango, interprété par l'Orchestre Philharmonique des Amériques sous la direction de Alondra de la Parra.
Vous écoutez Radio Classique.
Un autre de mes collaborateurs, Christophe Dard, aime bien le football. C'est lui qui a concocté l'émission de ce matin. Il nous raconte la toute première rencontre. Donc, France-Mexique, on est le 13 juillet 1930. À la 19e minute, dit-il, le joueur français Lucien Laurent, sur une belle reprise de volée, ouvre le score pour la plus grande joie, notamment de Jules Rimet et de sa fille, qui sont toujours là présents en tribune. Le joueur du FC Sochaux, également ouvrier chez Peugeot, devient le premier buteur de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Plus tard, le fameux Lucien Laurent, il dira « Quand j'ai marqué ce but, j'ai eu une joie simple, celle d'un buteur normal avec ses coéquipiers. On a dû tout juste s'embrasser ou se taper dans la main avant de reprendre le jeu. Sur le coup, je ne me suis même pas posé la question de savoir si c'était le premier but mondial. Je n'ai pas réalisé. » Avant la demi-heure de jeu, le gardien de but français va se blesser. Et à l'époque, il n'est pas possible d'effectuer des remplacements des remplacements en cours de match, comme ça. Donc un joueur de champ va prendre la place du gardien de but, ce qui n'empêche pas l'équipe de France de battre l'équipe du Mexique. Ils étaient que 10, les Français, sur le terrain à ce moment-là. Et ils ont battu le Mexique 4-1. Et deux jours plus tard, les joueurs de Caudron, l'entraîneur, vont affronter le favori du groupe, qui est l'Argentine. L'Argentine qui a préparé cette épreuve mondiale en toute décontraction. Le joueur argentin Varallo dira plus tard « C'était le joueur le plus expérimenté qui composait le 11 de départ. Le jour de mon premier match contre la France, j'ai demandé au capitaine Ferreira le style de jeu à adopter. Il m'a dit « Oh, joue comme tu sais le faire, hein, fais ce que tu veux. » Notre coach nous rabâchait juste « Surtout ne mangez pas de sandwich au salami avant les matchs. » Vous voyez un petit peu l'ambiance générale. Ah oui, c'était une autre époque, qu'est-ce que vous voulez. La France tient tête à cette équipe d'Argentine, mais à 9 minutes de la fin, quand même, les Bleus, on peut déjà les appeler comme ça, c'est bien la couleur de leur maillot, sont menés 1-0. Alors, ils vont jeter toute leur force dans leur bataille, ils reviennent au score, et il reste du temps lorsque l'arbitre de la rencontre décide de siffler la fin. À 4 minutes de la fin du match, les joueurs français et les spectateurs sont furieux, certains envahissent le terrain, bref, il va falloir que la police uruguayenne intervienne, vous imaginez. Finalement, alors que les joueurs des deux équipes ont rejoint leur vestiaire, l'arbitre revient sur sa décision, il fait jouer la fin de la rencontre, mais là, qu'est-ce que vous voulez, tout le monde est démobilisé, ça ne changera pas le score, 1-0 contre l'équipe de France. Le 19 juillet, la France doit impérativement gagner son troisième match contre le Chili, sinon elle va se faire éliminer. C'est le seul moyen de se qualifier pour la demi-finale. Le but chilien intervient à la 67e minute et là, il anéantit les espoirs de l'équipe de France qui donc est éliminée de cette première Coupe du Monde, mais qui a bien joué néanmoins. L'histoire retiendra que ce match contre le Chili s'est joué seulement devant 2000 spectateurs. C'est l'affluence la plus faible de toute l'histoire de la Coupe du Monde de football. C'est presque un score pour ce qui est du public de rencontre de championnat amateur. Alors, dans la poule 4, les États-Unis qui sont favoris de leur groupe vont terminer premier. La Yougoslavie va faire sensation dans la poule numéro 2, puisqu'elle n'était pas tête de série, elle a battu le Brésil et se classe première après sa victoire contre la Bolivie. Et puis de son côté, l'Uruguay, qui est le pays organisateur du tournoi, évidemment est sous pression. D'ailleurs, la préparation de l'équipe s'est faite dans un camp d'entraînement avec une discipline extrêmement stricte, à tel point que le gardien de but de la Céleste a été exclu du groupe pour avoir enfreint le couvre-feu et accepté la visite de son épouse. Enfin, je crois qu'il a rencontré son épouse en dehors du camp en question. Bref, l'Uruguay entre dans la compétition le 18 juillet face au Pérou. C'est le moment, ça y est, d'inaugurer le fameux stade, là, qui n'était pas prêt, le stade Centenario. Le match est précédé d'une cérémonie qui marque justement le centenaire de la première constitution de l'Uruguay en 1830. C'était jour pour jour, le 18 juillet 1830. Eh bien, le match a lieu le 18 juillet 1930. Tout ça a été très bien prévu, évidemment. Et c'est pas une rencontre passionnante, mais l'Uruguay l'emporte. Évidemment, l'équipe uruguayenne n'a pas emballé les journalistes, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ils vont se rattraper contre la Roumanie et se qualifier pour les demi-finales. Alors, la première demi-finale de cette Coupe du Monde 1930, toute première Coupe du Monde de l'histoire se déroule au Centenario, justement, le 26 juillet, devant 70 000 spectateurs. Cette fois, le terrain est détrempé. Le match, c'est Argentine-États-Unis. Finalement, c'est l'Argentine qui se qualifie et qui va en finale. Et le lendemain, toujours au Centenario, et à la même heure, il y a 80 000 spectateurs pour la rencontre Uruguay-Yougoslavie. Et les Yougoslaves se débrouillent très bien puisque dès la quatrième minute, ils commencent par marquer un but. L'Uruguay égalise un quart d'heure plus tard, puis prend l'avantage alors que le but que vient de marquer l'équipe nationale n'aurait pas dû être validé en fait, parce qu'il est sorti des limites, le ballon est sorti des limites du terrain, il a été renvoyé par un policier uruguayen et c'est un buteur de la Céleste qui a finalement marqué, mais normalement le ballon n'était plus en jeu à ce moment-là. Bref, avant la demi-heure de jeu, alors que l'Uruguay mène 3-1, la Yougoslavie marque un but, mais qui cette fois est refusé par l'arbitre pour une position de hors-jeu très discutable d'après tous les gens qui étaient là. À l'époque, il n'y avait pas de caméra, il n'est pas possible de passer le ralenti, hein, mais décidément, on peut dire que l'Uruguay a été un peu aidé dans cette affaire, si vous voyez ce que je veux dire. Peu importe, l'équipe nationale va aller en finale contre l'Argentine. Bon, ben, Argentine-Uruguay, de toute façon, c'était le match de finale tel qu'il avait été prévu. C'était les deux favoris de la compétition. Et c'est bien le match qui va décider du vainqueur de cette première Coupe du Monde de football. L'Orchestre National du Capitole de Toulouse, sous la direction de Michel Plasson, interprétait ce mouvement symphonique numéro 2 d'Arthur Honegger, qui ne s'appelle non pas football, mais rugby. Eh oui, que voulez-vous, personne n'est parfait.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Imaginez l'angoisse de l'arbitre belge qui va devoir arbitrer donc ce match Argentine-Uruguay, alors que tous les spectateurs uruguayens sont là. Il y a énormément de monde dans les tribunes, bien entendu. Il a demandé que sa sécurité soit assurée, l'arbitre. Il y a même une de ses requêtes qui est que un bateau soit prêt à partir une heure après la fin du match, dans le cas où il devrait quitter le pays un peu plus rapidement que prévu. Avant le début du match, l'arbitre a été sollicité déjà pour régler un différend avec les équipes d'Argentine et d'Uruguay, parce que chacune veut jouer avec son propre ballon, et pour trouver une solution, l'arbitre est entré sur le terrain avec un ballon sous chaque bras, et on a tiré à pile ou face, et c'est le ballon argentin qui a été utilisé en première mi-temps, le ballon uruguayen en deuxième mi-temps. Ce différend réglé, les deux équipes entrent sur une pelouse de piètre qualité, l'Uruguay est en bleu ciel, l'Argentine en rayures ciel et blanc, vous pouvez les imaginer, là qui déjà se battent avec la rage au ventre, bien entendu. Les deux équipes jouent avec 5 attaquants. Le coup d'envoi est donné à 15h30.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et il y a pas mal d'occasions. L'Uruguay ouvre le score dès la 12e minute de jeu. Frappe croisée, poteau rentrant pour les spécialistes qu'on doit à l'ailier droit Pablo Dorado. Les Argentins égalisent 8 minutes plus tard. Ils prennent l'avantage avant la mi-temps. On peut dire que ça devient compliqué, hein. À la pause, l'Argentine mène 2-1. Et en deuxième période, l'Argentine est près du 3-1, sauf que l'Uruguay égalise avant l'heure de jeu. Je cite le joueur Varalo, toujours, hein, cet Argentin qui se rappellera en 2005, 75 ans après la finale, voilà ce qu'il dit. En seconde période, les Uruguayens ont commencé à jouer très dur. Je me souviens que celui qui me marquait n'arrêtait pas de me dire « je vais te tuer ». On a eu 2 blessés et on a terminé le match à 9, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de remplaçant. J'étais blessé aussi, mais je suis resté sur le terrain. On n'allait tout de même pas terminer à 8. À la 68e minute, c'est la délivrance pour tous les supporters uruguayens qui sont là. C'est Iriarte qui tire un véritable boulet de canon dans le but des Argentins, qui court après le score, qui tire sur la balle à la 90e minute. Et finalement, l'Uruguay se mettra définitivement à l'abri grâce à un dernier but, un but de tête d'Hector Castro. Il ne reste là que quelques secondes. L'arbitre a déjà le sifflet à la bouche. Les supporters de l'Uruguay exultent. Leur équipe vient de battre l'Argentine 4-2. Maigre consolation pour l'Argentine, le buteur Stabile va terminer meilleur buteur de la compétition. Enfin, il n'empêche que ceux qui ont gagné, ce sont les Uruguayens. Et le lendemain, 31 juillet, est proclamée fête nationale. C'est extraordinaire ce qui se passe dans les rues de Montevideo, bien entendu. Et pendant ce temps, à Buenos Aires, une centaine de supporters argentins vont jeter des pierres sur l'ambassade d'Uruguay. Ça commence fort, cette première Coupe du Monde, comme vous pouvez le voir. Ça a été quand même un assez gros succès, on peut le dire. Alors, la Coupe du Monde a énormément changé depuis, mais c'est vrai que pour l'Uruguay, cette première victoire de 1930 reste gravée puisque le maillot de la céleste de l'équipe uruguayenne continue d'arborer 4 étoiles qui correspondent au sacre des Coupes du Monde de 1930 et aussi de 1950. Je vais pas vous la raconter, celle-là. Et puis aux 2 titres olympiques, donc de 24 et 28. Alors, la FIFA a demandé qu'on retire les 2 étoiles des titres olympiques qui n'ont rien à faire sur un maillot de Coupe du Monde, mais je regrette, en 2022 au Qatar, ce sont bien 4 étoiles qu'arboreront les joueurs uruguayens sur leur maillot.
Vous écoutez Radio Classique.
Les mêmes 4 étoiles qu'arbore par ailleurs Christian Morin. Bonjour Christian.
Oui, mais pas pour le football, parce que là, j'ai été un piètre joueur de football. Mais en vous écoutant, je me souviens de... J'ai déjeuné il y a quelques années avec un homme formidable qui est peut-être à l'écoute, ou ses amis, c'est Juste Fontaine.
Oui, merveilleux.
89 ans aujourd'hui, Coupe du Monde 58, où la France était 3e meilleur buteur de la compétition. Il avait marqué 13 buts pendant cette compétition. D'ailleurs, le record n'a jamais été égalé en une seule édition, et 4e meilleur buteur de tous les temps, championnat du monde. Mais il me racontait simplement, il me disait, à l'époque, quand il était à Reims et même à Nice avant, il me dit, on voyageait en bus, on roulait la nuit, quelquefois on était crevés avant de faire les matchs, et puis quand on rentrait à la maison, ben, on lavait nous-mêmes nos chaussettes, nos tenues, etc. Et les cachets n'étaient pas les mêmes. Alors je me suis dit qu'avec ce monde qui change, il est tout à fait normal, eh bien, à propos d'une histoire qui s'est passée ces dernières 48 heures, à propos du droit à l'image, il y avait à l'époque un droit au lavage. Voilà. Revenez demain pour la troisième proposition.
Ce sont des droits très pratiques. Là,
vous devriez faire des commentaires de football sur l'histoire du football.
Oui, ça s'arrêterait très vite, hein, je vous rassure.
Non, mais l'histoire du football, par Franck Ferrand...
Ça, je l'ai fait. Je l'ai fait sur Canal Plus à une époque.
Ce serait intéressant.
Vous savez, entre les deux mi-temps, là, à la mi-temps, j'étais dans les buts d'une des deux équipes et je racontais l'histoire de l'équipe. J'ai fait ça, figurez-vous.
Ah, ça, c'est formidable. Mais vous n'avez jamais joué au football.
C'est vieux, hein, c'était il y a 15 ans. Jamais joué au football. Non. Je ne connais pas grand-chose à cette matière-là, disons les choses.
Moi non plus. Mais le premier match que j'ai fait, mon père m'avait dit, tu es sûr que c'est pas du rugby? Parce qu'on avait perdu 11-0. Ah, j'avais marqué 4 buts dans mon camp, parce que j'avais oublié qu'à la mi-temps, on changeait de côté.
Oui.
Je me disais, mais personne ne m'arrête. C'était formidable. J'avais 11 ans, il faut dire. C'était mes débuts. Merci, mon cher Franck. Cet après-midi, le rendez-vous avec Franck à 14h sera une évocation d'une grande période. Vous nous racontiez l'autre jour l'histoire des ballets, mais c'est Nijinsky.
Nijinsky, extraordinaire, l'un des plus grands danseurs de tous les temps.